Bonjour à tous, c'est David Malacrida, et dans ma tête, la vie ressemble à un grand cirque. Il y a ceux qui jonglent avec leurs galères et ceux qui survolent la piste avec aisance. Ceux qui, dans les coulisses, s'inventent un nouveau monde et ceux qui tirent les ficelles du présent. Tous sont des acrobates cherchant leur place sur la piste. Ils se trouvent ou se perdent dans les choix qui s'offrent ou se refusent à eux. Moi, j'ai choisi de parler d'eux. Pas de format, ni d'obsession, mais des envies, des questions et une durée qui s'adapte à son sujet. C'est des minutes et quelques secondes entre vous, moi et des histoires. Ça s'appelle Les Acrobates et ça commence maintenant. Aujourd'hui, on parle de ceux qui se relèvent toujours après la chute. JF et Tess sont athlètes de haut niveau dans des sports extrêmes. Font de la bravoure un mantra, de l'échec un tremplin et de leur peur des décharges d'adrénaline. Mais pourquoi ? Deux réponses et deux histoires racontées par leurs protagonistes dans une chambre d'hôtel cosy. Attention, ça frappe à la porte.
Yo.
Yo,
ça va?
Bienvenue.
Et toi, ça va mieux ta tête?
Ah ouais, non, ça va. Ah, oh, c'était plus de peur que...
Au niveau de la carrière de ski, je me suis fracturé la clavicule, fracturé la cheville gauche, ouais, la clavicule gauche. Je me suis disloqué la hanche gauche, fracturé le fémur gauche. Je me suis fracturé le pied droit, je me suis fracturé la main droite, je me suis disloqué l'épaule 6 fois, puis j'en oublie sûrement 2 ou 3, après il y a des petites blessures, j'ai eu un déchirement partiel du genou gauche. En gros, j'ai eu 4 opérations qui étaient quand même plus sérieuses, puis au niveau de la tête, j'ai eu 3 bonnes commotions cérébrales où j'ai perdu conscience, mais ouais, c'est fou, juste de toutes les lister, là, ça me fait peur. Jean-François Hull, Jeff Hull, je viens de Drummondville, Québec à la base. J'ai été skieur professionnel environ 15 années. Je le suis encore partiellement, si on veut. On dirait que j'arrive jamais à me donner un titre. Si je vais être skieur un peu pour la vie. Après, c'est sûr que là, je gagne plus ma vie à 100% avec ça. Fait que je peux dire que je suis vraiment skieur professionnel à ce niveau-là. Mes parents, eux autres, faisaient ça familial. Là. Ils n'étaient pas vraiment des skieurs extrêmes ou des skieurs incroyables non plus. C'était vraiment pour réunir la famille ensemble. Puis c'était cool. Là. Je pense que c'était une bonne chose. J'aimais pas le ski au début. Ma mère me disait, j'étais chigné, ben, comme tout le monde un peu, quand t'es pas trop à l'aise avec un sport ou avec un truc. Puis après, ben, je sais pas, le skateboard, ça a toujours été une grosse influence. Je me suis mis à faire du skate parce que c'était un sport qui coûtait pas cher. On allait au parc avec nos amis, puis on se challengeait. C'était un peu marginal aussi. Puis j'ai toujours aimé l'image des sports marginaux, des sports extrêmes, les games, tout ça. Donc après, le ski est venu un peu plus longtemps après parce que c'était nouveau. Puis je suis vraiment tombé, si on veut, passionné de tout ça. Parce que ça marchait bien, simplement, tu sais, j'étais pas dans un club où mes parents mettaient la pression, où j'ai vraiment développé tout ça, naturellement, simplement, parce que je voulais être meilleur que mon frère ou meilleur qu'un ami.
Je reconnais maintenant Monsieur le député de Drummond.
Merci, Madame la Présidente. Nos jeunes sont friands de sensations fortes, et cela en particulier sur nos pentes de ski. Ils ont désormais un nouveau modèle ici au Québec. Je voudrais ainsi souligner la victoire du Drummondvillois Jean-François Hull au Winter X Games d'Europe dans l'épreuve de Slope Style le 18 mars dernier à Tignes, en France. En attendant la francisation de ces termes, cette compétition consiste en une descente munie de différentes rampes et sauts jugés selon la performance et le niveau de difficulté.
Moi, j'ai fait de la compétition de 2007 à 2013 intensément. Ça a bien été. J'ai réalisé un autre gros rêve en 2011 au X Games à Tignes. J'ai gagné la médaille d'or, qui était pour moi l'apex de ma carrière, si on veut. Tu sais, puis après, on m'avait toujours dit que ça allait être dur de rester au top. Puis je dois dire que c'était dur de, quand t'as une pression d'être le meilleur, de rester le meilleur. Ça, c'est mentalement un obstacle qui joue constamment en arrière de la tête parce que tu sais que dans l'industrie, le monde s'attend à ce que tu délivres une performance tout le temps. Ça te met une pression. Puis à ce moment-là, moi, je me suis mis à vraiment moins performer. Fait qu'en 2013, j'ai vraiment quitté la compétition. L'équipe canadienne, ils voulaient que je reste avec eux. Ils m'ont pas dit « t'es fini, blablabla », à cause que je m'étais pas fait inviter pour les JO à cause d'une blessure. J'avais pas assez de points. Et bon, c'est sûr que ça m'a donné un petit coup mental où j'avais travaillé pendant 2-3 ans. Mais bon, malheureusement, ça a pas marché. Puis j'étais très fier de ma carrière compétitive. Puis je me suis dit que c'était le temps de tourner la page.
Je vais faire un 3 de l'an, c'est bon.
tu sais, j'ai réalisé des rêves, des trucs, mais il y a des trucs aussi qui n'ont pas marché, puis ça, c'est important de le dire. Puis, mais je pense que cette rage-là de pas avoir réussi, comme de finir comme je voulais dans le milieu de compétitif, ben, fait que j'ai fait. Je mets 100% de ce que j'ai, de ce qui me reste, de l'énergie que je peux avoir pour le ski, des idées, des buts que je voulais. Je voulais prouver que j'étais au top du milieu un peu urbain, qui était en skateboard, ce qui m'inspirait le plus. Puis ça a super bien marché. J'ai réalisé un projet vidéo qui est devenu une obsession pendant 2 ans, qui était... Je peux pas dire que j'ai eu du plaisir à le faire. C'était tellement... Je le voulais tellement, puis je suis tellement dur envers moi-même mentalement. On voit des images dans les films de ski, ces choses-là. Ça a l'air simple, ça a l'air facile. Il y a tellement d'acharnement, de travail en arrière de ça. C'est pas vrai qu'on est des machines ou des robots et qu'on n'a pas peur. T'sais, il y a vraiment des sacrifices humains, si on veut dire. C'est vraiment... T'sais, tu mets ta vie entre les mains de tes skis, de tes feelings, de la neige, de la température. Puis ces choses-là, tu peux pas les contrôler. T'es rendu mort, t'es rendu... Tu te dis, mais pourquoi je fais ça? Mais à un certain point, tu te mets sur un mode automatique. Si tu deviens dans un automatisme, il n'y a plus rien d'autre qui compte que d'avoir cette image-là. Tu deviens un peu paranoïaque avec cette vision-là, d'avoir cette image-là, ce moment-là, avec cette lumière-là. Et c'est con, c'est un sentiment qui est dur à expliquer. Même j'essaie de l'expliquer, là, je cherche des mots. Je pense qu'il faut le vivre pour le comprendre. C'est une adrénaline qu'on se crée. C'est comme une certaine drogue. Tu sais que tu vas te mettre dans une situation de tension, dans une situation où tu vas te mettre la pression. Tu sais, si tu veux le faire au niveau que tu veux le faire, tu sais que ça va être risqué. Mais le sentiment d'accomplissement, il vient tout couvrir. Et ça le vaut à 100%. J'ai investi beaucoup de mon temps, de ma passion, même de mon argent. J'ai pas eu tous les sponsors qui m'ont suivi, mais pour moi, c'était un point de non-retour. Je voulais réinvestir l'argent que j'avais fait avec le ski dans ce projet-là pour moi, personnellement, pour ma passion, je pense, pour les feelings que je voulais aller chercher, pour créer ce que je voulais créer. Puis ça a super bien marché. J'ai gagné des prix, 3 prix au festival du IF3 à Montréal avec le projet Hooligan Ski Story. J'ai continué à faire des projets pour mes commanditaires l'année qui a suivi. Puis je me suis blessé vraiment gravement. Le côté amer, là, j'avais 32 ans, ben il me frappait. Mais il me frappait comme c'était directement, j'avais pas le choix de prendre une décision parce que là, je me suis fracturé le fémur, puis disloqué le bassin. Puis c'est sûr qu'à partir de là, tu te remets, tu te poses des questions sur pourquoi en fait tu prends ces risques-là. Puis pour des images qu'au final, je pourrais aller travailler ou aller à l'université ou faire une job, un peu une vie plus banale comme tout le monde, mais au moins... pas risquer un peu ma vie, mon cou, mes membres à juste faire un peu un pauvre salaire par année. Puis c'est là où tu te remets en question beaucoup, puis tu viens dans des phases vraiment noires un peu où je me dis, j'avais une vie où j'étais tellement dans le spotlight, où le monde était là, yes, t'es cool, yes, c'est fou ce que tu fais, continue malade, blablabla, jusqu'au certain jour où tu te blesses. Puis là, pendant 1 an ou 2, ben le monde, c'est pas qu'il t'oublie ou quoi, mais t'es plus dans le spotlight, puis tu te dis, bon, au final, je suis plus, et là, faut que je recommence à zéro, comme tout le monde. Je suis retourné à l'école, ça a très bien réussi, j'ai eu mon diplôme, 94%. J'avais des petites craintes, mais à quelque part, c'est sûr que ce que j'ai construit dans ma vie en tant que personne, ça a construit ma personnalité, ça a construit ma confiance en moi. Et il reste que je vais toujours avoir le côté de jeune en moi qui va vouloir, à 40, à 50 ans, si je suis capable de pouvoir faire un 3-6 sur une petite table de 20 pieds de 3-4 mètres, ben je vais toujours me challenger parce que c'est la mentalité que j'ai, puis ça m'apporte simplement... Je dors mieux le soir, puis ça me fait vivre, ça me fait content d'être en vie, de pouvoir faire des trucs comme ça, finalement.
Alors, j'ai commencé le ski à 2 ans, avec ma grand-mère. C'est elle qui a mis tous ses petits-enfants sur les skis, c'est un peu une histoire de famille. Après, j'ai passé toutes mes étoiles, un parcours ordinaire, on va dire. Bah, je m'appelle Tess Le Deux, Je fais du ski freestyle. Ma discipline, c'est le slopestyle. J'ai 17 ans et je viens de la Plaine. Dès que j'étais toute petite, dès que j'ai commencé même à passer mes étoiles et tout, j'arrivais pas à suivre le moniteur normalement. Je devais toujours prendre la petite bosse sur le côté de la piste. Enfin, je me suis engueulée tout le temps, j'étais intenable. C'est vraiment, je voulais sauter et je voulais toujours aller au snowpark. Et dès que je suis rentrée au club des sports en pré-club, avec des coachs alpins, tous les jours, je leur disais, on va au snowpark aujourd'hui. Enfin, je sais pas, c'était une évidence, en fait. Je me suis jamais posé la question de faire autre chose. Au début, j'étais super jeune, donc ça a pas fonctionné tout de suite, mais je pleurais à chaque fois que ça marchait pas. Le truc, c'est que j'avais pas du tout le niveau pour faire un podium, donc j'étais jamais sur les podiums, donc je pleurais tout le temps. Mais j'ai toujours eu cette âme de compétitrice. Et c'était un peu toujours ce rituel de me dire la prochaine elle est pour moi, et encore maintenant dès que je loupe je me dis bah c'est pas grave, la prochaine elle est pour moi. Du coup c'était comme une évidence pour tout le monde que j'aimais faire ça et que je voulais faire ça. Du coup jamais personne m'a mis des bâtons dans les roues, et de toute façon je leur ai toujours dit, moi je veux faire du ski de haut niveau, je veux réussir ma vie dans le ski, donc personne m'en empêchera. Et du coup bah c'était une évidence en fait. Du coup, à 15 ans, j'ai commencé le circuit Coupe du Monde. C'était un peu une surprise parce que dès la première année, ça a trop bien marché. Ma toute première Coupe du Monde, j'ai gagné. Après ça, j'ai reçu ma première invitation X Games. X Games, c'est vraiment la compétition la plus reconnue dans notre milieu.
Tess isn't just the youngest in this competition at 15 years old. She's actually the youngest at X Games Norway across the board.
Et j'ai fait une médaille d'argent, pareil, je sais pas d'où elle sort. Franchement, je réalise même pas encore que j'ai fait cette médaille il y a 2 ans.
And 88! Taking Lada into first place, do you believe it?
La dernière compétition, c'était les championnats du monde. Pareil, j'ai gagné les championnats du monde. Et du coup, d'avoir un titre aussi gros... sur les épaules, ouais, là, ça a commencé à me mettre de la pression, de me dire, waouh, là, j'ai un titre, ça dure 2 ans, il va falloir que j'assume ce titre pendant 2 ans. Et là, ça a commencé à... Enfin, j'ai commencé à me poser des questions. Je vivais JO tout le temps. Je mangeais JO, tout ce que je faisais, c'était pour les Jeux. Je m'en rappelle, je me disais, si j'arrive pas en haut des escaliers en moins de 5 secondes, je gagne pas les Jeux. Enfin, je me donnais des défis, en fait, comme ça. Et on se donnait des défis comme ça avec tout mon groupe. Et finalement, le début de saison se passe bien avant les Jeux. Je fais 2e au du tour, je regagne une Coupe du Monde. Et du coup, ça a encore prouvé mon titre de favorite. Parce que vraiment, c'était le début de la saison olympique et j'avais fait un très bon début de saison. La semaine, elle commençait nickel, soit. À part que j'étais ultra stressée au fond de moi, que je dormais pas, que tout ça. Sur les skis, ça allait très bien. Je me suis réveillée, j'étais en forme et je croyais à 100% en moi. Je me suis dit, c'est mon jour. Je sais pas pourquoi, je m'étais dit, c'est mon jour.
Le front de 4,50 à haute. Ça, c'est encore mieux, c'est la seule à venir prendre sur elle et faire une figure dessus.
Elle a beaucoup travaillé sur elle, là.
On s'était dit que si je faisais un premier run avec des erreurs, c'était pas grave. Parce que c'était un jour où on avait le droit à l'erreur parce qu'il prenait beaucoup de personnes en finale. Et du coup, j'ai fait un premier run avec des erreurs. Et je suis restée en finale pendant longtemps. Je suis restée dans le top 16 pendant très longtemps. Après mon premier run, j'étais ultra tendue parce que je savais pas trop si ça allait passer en finale ou pas. Mais j'étais rassurée d'avoir posé un run et d'avoir quand même un score au-dessus de 30. Au départ de mon deuxième run, du coup j'étais bien. Je fais un gros câlin à mon coach et je lui dis c'est bon, je me sens bien, j'y vais et j'améliore mon score. Comme ça, c'est sûr que je passe en finale. Et là, je fais le meilleur run de toute ma vie. D'en haut jusqu'en bas, les rails, j'ai jamais aussi bien skié, les sauts pareil, et j'arrive sur le tout dernier module, et je sais pas, j'avais tellement bien fait avant, que je me dis c'est bon, c'est le saut que je maîtrise le mieux, je le fais depuis que j'ai 13 ans, ça devrait aller, et là je prends trop de vitesse, et je pose trop bas, et du coup j'implose, genre, impossible de plaquer un saut aussi bas.
Aïe, elle explose sur l'air d'arriver sur le dernier kick.
Ah, elle en a trop mis là sur la fin, c'est dommage.
Mais quel
hein.
Dommage.
Ah, elle avait un run pour passer devant et être première la Tess. On va croiser les doigts jusqu'au bout parce que pour l'instant.
Et là, je sais pas, même si j'étais encore dans le cut des finales, j'ai eu l'impression que tout s'effondrait. Et du coup, je suis arrivée en bas. Et j'étais encore en finale, du coup je me suis dit je croise les doigts.
C'est la 10e place provisoire, c'est dur.
J'avais déjà les larmes aux yeux, de me dire, putain, mais si je passe pas, c'est la fin du monde, tout s'écroule. Pour moi, si je passais pas, tout s'écroulait. Et j'étais sur le télésiège et j'ai entendu le speaker dire, bon bah, une fille passe à telle place, une fille passe à telle place. Et petit à petit, je me suis, enfin, deux, trois filles, je me suis fait virer des finales. Et là, là, c'était la fin du monde. Là, c'était la fin du monde. J'avais plus envie de parler à personne, je me suis écroulée et pendant trois jours, je faisais que pleurer. Et là, je dormais pas parce que j'étais triste. Et non, après, il y a eu du mal. Et j'avais plus de nouvelles de personne. Mon coach et mon staff m'envoyaient deux, trois messages de temps en temps, mais me laissaient quand même tranquille pour profiter de ma famille. Mais les personnes de la fédération qui étaient ultra présentes avant les Jeux, plus rien. Pour les dernières compètes, plus rien. J'avais une Coupe du Monde deux semaines après. Et j'ai gagné cette Coupe du Monde deux semaines après les Jeux. Et je reçois juste un message du gérant de la section freestyle qui me dit « Félicitations, après ton échec des Jeux, c'est pas mal. » Mais il s'en rendait pas compte à quel point... Enfin, moi, j'étais sur le podium de cette Coupe du Monde et j'avais les larmes aux yeux d'avoir loupé les Jeux deux semaines avant. J'en étais toujours vraiment pas remise. J'étais au départ de cette Coupe du Monde, j'étais bah, « c'est bon, je m'en fous, là, j'ai plus envie, machin. » Et du coup, ça a marché, mais j'ai même un mauvais souvenir de cette Coupe du Monde parce que je sais que j'étais pas bien au fond de moi et que j'avais pas envie d'être là. Et j'y suis allée parce que j'étais un peu obligée d'y aller. On va dire que tout le monde m'a dit « ouais, tu peux pas rester sur un échec, faut que tu viennes, tu peux pas rester chez toi à te cacher juste parce que t'as loupé une compète », ce qui est vrai. Mais du coup, je suis arrivée là-bas et trop de ras-le-bol de compétition, de ski, de... Je sais pas, j'avais plus envie. Il y a une fille qui était pas du tout favorite aux Jeux Olympiques et qui a ramené une médaille dans mon lycée. C'était super compliqué pour moi à gérer parce que avant l'hiver, là-bas, je suis partie en tant que favorite et quand je suis rentrée à l'école, bah, en fait, il y avait une autre fille qui avait fait une médaille et du coup, pareil, moi là, j'étais plus rien alors qu'avant l'hiver, enfin bref, tout ça, c'était un peu compliqué à gérer. Du coup, même à l'école où je m'étais dit, ça va me faire couper du ski, ça va être bien, et ben finalement, j'entendais toujours parler des jeux, des médailles, de tout ça. J'avais mon coach souvent au téléphone et je lui disais que j'avais pas envie de skier, que je me sentais pas, que je me sentais nulle, vraiment en fait ça m'a fait baisser ma confiance en moi, je sais pas pourquoi en fait, tout a été remis à zéro après les Jeux, je croyais plus du tout en moi alors que j'étais quelqu'un qui après une compète se relevait facilement, et là, là c'était non, je suis nulle, j'ai plus le niveau, je vais plus y arriver, enfin je sais pas, il s'est passé 36 000 choses dans ma tête, et j'ai refait mes sauts petit à petit, mais j'ai vraiment tout repris à zéro parce que vu que j'avais plus de confiance en moi, bah... Mes sauts, ils étaient pas bien. La première compète s'est super mal passée. Et j'ai recommencé à baisser les bras et tout. Et là, mon entraîneur, il est venu me voir et il m'a dit... Enfin, il m'a engueulé. Clairement, il m'a crié le dessus et il m'a dit « Tu peux pas faire ça. Je te reconnais pas. Enfin, toi, dès que tu perdais, tu te disais « C'est pas grave, la prochaine fois, je vais tout les défoncer. » Et là, non, là, j'étais en mode « Je vais plus y arriver. C'est fini. Le ski, c'est fini pour moi. » Enfin, c'était... Je sais pas, tout était bizarre. Et du coup, après, il y a eu le du tour. Et là, vu qu'il m'a bien engueulée et tout, je me suis dit, vas-y, je tente une dernière fois, mais il faut que ça marche. Et du coup, cette année, au du tour, j'ai fait deux. Mais je pense que c'est un de mes plus beaux podiums. Parce que du coup, Greg, mon entraîneur, il est arrivé en pleurant vers moi. Et il avait jamais pleuré pour une compétition, pour moi. Là, je me suis dit, ça y est, enfin... C'est bon, je suis encore capable de le faire. Et Greg, il me disait, mais... T'es capable de le faire, t'as vu, maintenant tu vas arrêter de me saouler, maintenant t'as remonté la pente, c'est bon là, on n'en parle plus de l'hiver dernier, t'as été ultra relou pendant 6 mois, mais maintenant c'est du passé, t'as compris et tout, et il me pleurait dans les bras, et du coup cette deuxième place c'était comme une victoire pour moi. La saison j'ai eu plein d'échecs et tellement de belles choses aussi à côté, que bah, j'en garde quand même un souvenir positif parce que finalement je suis revenue loin et je m'en voulais du coup d'être aussi mal et de pas arriver à remonter la pente alors que c'était qu'une compétition quoi. En soi c'est quoi, enfin dans une vie c'est rien, franchement même maintenant je me le dis et je me dis mais pourquoi ça m'a mis aussi mal, et maintenant quand j'ai un échec je me dis bah je suis triste, le jour même. Pareil que quand j'étais jeune, je me mets à pleurer. Mais je sais que c'est pas la fin du monde et que je peux réussir à... Et que j'ai pas perdu mon niveau et tout ça. Et ça, je me le dis plus. Je me dis, bah là, ce jour-là, j'ai foiré, mais c'est pas grave. Enfin, je suis ultra triste, ultra énervée, mais c'est pas le même énervement ou la même tristesse que j'avais après les JO. C'est plus un truc de niaque qui me redonne envie de skier. Ouais, maintenant, dès qu'il y a un truc qui va pas trop ou quoi, je me dis pas, oh là là, je vais pas y arriver et tout ça. Je me dis, bah, c'est pas grave. Il y a bien pire. Et je me dis toujours, il y a bien pire. Et du coup, bah, ça m'aide, quoi. Je pense que si ça marche pas, je serais super triste aussi, parce que tout le monde est super triste après avoir loupé les Jeux. Mais je pense que ça me démolira pas comme ça m'a démoli là, et que là j'ai juste qu'une seule envie, c'est de prendre ma revanche et de me dire, ça y est, là les derniers t'avais que 16 ans et t'étais peut-être pas assez forte pour apprendre un événement comme ça, là t'auras 20 ans, bah t'auras toutes les capacités pour le faire, et du coup je crois un peu plus en moi. Après on verra, et j'essaie justement de pas me mettre de pression à me dire oh, je peux peut-être amener une médaille. Là je me dis, bah on verra si dans 3 ans je suis encore au top niveau. Si je suis encore au top niveau, bah, je me battrai pour une médaille. Et si j'ai... Enfin, on verra, en fait. Il peut se passer tellement de choses en 3 ans.
C'était Les Acrobates, un podcast de David Malacrida. Retrouvez plus d'histoires, de galipettes et de sujets sur la page SoundCloud Les Acrobates Podcast et sur vos applis habituelles. Merci à JFool et Tesla 2 pour leur participation. Merci à vous, auditeurs, pour vos oreilles attentives. À bientôt.